y a des émissions qu'on n'a pas forcément envie de faire et des émissions qu'on n'aurait surtout pas envie de refaire. Malheureusement, plus d'un an après les attaques du 7 octobre, il nous faut encore et encore documenter à notre échelle la situation au Moyen-Orient qui, depuis notre dernière émission en décembre, n'a cessé de se dégrader. D'une zone relativement restreinte, Israël et la bande de Gaza, l'Iran, la Cisjordanie, le Liban, la Syrie et j'en passe, sont désormais touchés par le conflit. On fait le point aujourd'hui dans La Lorgnette. Bienvenue à tous et à toutes. Et bonjour Elsa.
Salut Thomas.
Bonjour Elsa Petit-Hassan, donc secrétaire de l'association AFPS 41 avec qui on a déjà eu l'occasion de te recevoir dans cette émission comme je le disais en décembre pour parler de cette situation au Moyen-Orient. Je m'excuse pour le petit bug de démarrage, un petit problème logiciel juste à l'entrée du direct, mais nous sommes bien donc dans la lorgnette. Il est 17h02. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Studio Zef. Comment remettre des mots sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. On va tenter de le faire pendant l'heure qui vient, parce que on a l'impression d'avoir déjà tout dit, les mots commencent à manquer, mais il faut qu'on, comme je le disais, qu'on continue, je pense, en tout cas c'est notre vision de la chose ici, à documenter, à en parler encore pour ne pas oublier, pour continuer à dire ce qui se passe là-bas, d'une manière peut-être un peu aussi différente de ce que vont nous retransmettre les grands médias qui parfois on peut le voir sont biaisés. On le voit souvent dans les rapports de temps qui sont consacrés parfois à l'Israël et parfois à la bande de Gaza, des temps largement disproportionnés. C'est très bien documenté désormais, donc on essaye ici à notre petite modeste échelle de rebalancer tout ça.
Eh bien, bravo.
Donc, Elsa, tu peux représenter peut-être, notamment parce que c'est important, les auditeurs du Vendômois, les auditeurs et auditrices du Vendômois ne pouvaient pas écouter forcément la lorgnette en décembre dernier, et certains auditeurs et auditrices te découvrent peut-être avec l'AFPS, même si vous êtes aussi sur le Vendômois et vous menez des actions là-bas.
Oui, parce que justement hier on était encore devant le site de Thalès Vendôme, sachant que dans le site il n'y a pas de fabrication d'éléments d'armes à destination d'Israël, mais le groupe le fait. Et le syndicat CGT de Thalès a demandé à ce qu'il n'y ait plus d'exportation vers Israël, et donc nous avons distribué un tract de Stop Arming Israël hier, et c'est tout, très très bien accueilli par les salariés de l'usine. Voilà, il n'y a pas eu de problème, comme d'habitude nos distributions se font toujours tranquillement sans aucun problème.
Parfait. On peut donc évidemment commencer à reparler de la situation à Gaza. Ça, pour l'instant, ça reste la situation la plus préoccupante. Plus de 41 000 morts désormais.
On est, oui, à 42 000. 42 000. Si on rapporte à la population française, ça ferait 1,5 million de Français assassinés, et surtout des personnes qui, pour certaines, ont été déplacées des dizaines de fois, puisque à chaque fois l'armée israélienne envoie des messages, y compris sur les portables, pour leur dire de quitter une zone pour une zone soi-disant sûre qui en fait n'est pas sûre du tout. Ils sont bombardés. Et là, je voudrais rajouter quelque chose qui se passe à Gaza, qui est très très grave. C'est le nord de l'enclave qui a été séparé par le couloir de Nessarim du sud de la bande, et qui est complètement encerclé par l'armée israélienne, et dans laquelle plus aucune nourriture, plus aucune aide alimentaire ne rentre. Il y a eu l'incendie par les bombes du camp de déplacés qui était dans la cour de l'hôpital El Aqsa, où on a vu des vidéos terribles de personnes brûlées vives. Aussi, je veux dire, jamais la situation... Je peux pas dire ça, jamais. Parce qu'en fait, si on dit les choses clairement, quand on parle du 7 octobre des victimes israéliennes à Gaza depuis un an, c'est un 7 octobre chaque semaine. C'est ça qu'il faut se dire pour représenter l'horreur de ce que vivent nos frères et sœurs palestiniens.
Dans ces 41 voire 42 000 morts, on ne compte pas les blessés, il serait plus de 100 000 également.
Absolument, plus de 100 000, sans compter tous ceux qui sont sous les décombres, qu'on n'a pas
décompté.
Et je veux dire, le journal britannique très connu qui s'appelle The Lancet avait fait une étude vers le mois d'avril, il me semble, quelque chose comme ça.
C'est une revue scientifique
et médicale très reconnue internationalement. Absolument. Et alors, évidemment, ce n'est pas un article scientifique signé comme les autres, mais quand même, c'est The Lancet. Il ne sortirait pas un article pareil où il parlait de 186 000 morts à l'époque. À l'époque, quand on compte la proportion de ceux qui sont morts par les bombes et qui sont documentés, et avec ceux qui meurent des suites de leurs blessures, ou par les maladies chroniques et qui ne sont pas soignées puisqu'il n'y a plus de soins accessibles, ceux qui meurent tout simplement de famine aussi. Il y a des bébés qui sont morts de faim, carrément.
Eh bien, des bébés, malheureusement, un très bon article sorti dans Society cette semaine qui parle de la route 90 qui part du sud d'Israël et qui remonte jusqu'aux confins du Liban, notamment, faisait le point, c'est de cet article que je tire les chiffres, plus de 700 enfants de moins de 1 an ont péri et plus de 11 000 je crois de 1100 enfants de moins de 18 ans ont péri dans ce conflit à Gaza. Tu disais, Elsa, que la partie nord de l'enclave avait été encerclée. Plus rien ne rentre, plus rien ne sort,
et il semblerait que ce soit l'application d'un plan qui s'appelle le plan des généraux ou Eland, et qui consiste en fait à encercler et affamer délibérément une population pour en fait faire en sorte que la population civile se retourne et que le Hamas, ceux qui seraient encore présents dans cette enclave, se rendent. Bon, c'est une doctrine qui n'est pas reconnue officiellement, mais en fait les informateurs israéliens qui sont contre la guerre le disent bien. Donc ce serait ça. Et de la même façon comme au Liban, on essaye aussi de faire en sorte que la population civile se retourne contre le Hezbollah. C'est un petit peu la même stratégie.
On y reviendra sur la situation au Liban dans quelques minutes. On parle d'un... Alors, pardon, pour finir sur cette séparation, donc, la bande de Gaza est désormais coupée en deux avec, malgré tout, une possibilité d'aide, de secours humanitaire.
Alors
dans
non,
la partie sud.
Justement, là, il faut bien se rendre compte que par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, au printemps, il y avait à peu près une 150, quelque chose comme ça, de camions qui passaient par jour. Là, pour la partie nord de Gaza, rien du tout, mais rien, strictement rien, pas un seul camion d'aide humanitaire. Et pour le reste de la bande de Gaza, le nombre de camions a baissé drastiquement. On en est peut-être à une cinquantaine. Et il faut savoir que dans ce qui est interdit, il y a des choses qui sont complètement aberrantes, comme du style, par exemple, le savon, le gel douche, les dentifrices, le shampoing, ce qui veut dire évidemment des maladies dermatologiques avec toutes les conséquences. Et ça veut dire aussi une volonté d'humiliation. Il s'agit de faire en sorte que les Gazaouis ne se sentent pas des humains. C'est ça, en fait, qu'il y a derrière.
Cette situation sanitaire engendre évidemment des morts qui ne sont pas forcément comptées de prime abord. On voit malgré tout, même si, comme je le disais, les temps de parole est consacré à l'un camp ou à un autre dans les grands médias sont largement disproportionnés. Je vous encourage à aller regarder des vidéos ou des articles des sites de critiques médias comme Aris Ouvrage ou Acrimed qui le documentent très bien. On a quand même malgré tout des images qui nous parviennent de la bande de Gaza où on est sur un champ de ruines en fait maintenant.
Absolument.
Que reste-t-il d'infrastructure?
Absolument. Alors il faut savoir que 70% des bâtiments sont complètement détruits à Gaza. Il y a eu plus de 1000 attaques sur les centres de santé. Certains hôpitaux ont été visés 5 à 6 fois de suite par des bombardements. Qu'il y a 505 500 habitations détruites et qu'il y a plusieurs fois par semaine des bombardements sur les camps de réfugiés. C'est ça, en fait, le niveau de destruction qu'il y a sur la bande de Gaza.
Et donc les populations sont forcées de se déplacer dans des camps. Où est-ce que ces populations s'installent? C'est dans les rues, c'est dans des zones un peu désertiques. Comment ça se passe?
Alors apparemment, il y en a quand même pas mal sur le camp d'El Mawassi, c'est-à-dire sur la bande sableuse, la mer, en fait le bord de mer.
Le bord de mer
au côté du côté sud, du côté de Rafah. Il y a aussi des écoles de l'UNRWA où les déplacés venaient se réfugier, mais on sait que les écoles sont systématiquement attaquées. Je veux dire, il n'y a pas de lieu sûr, c'est ça qu'il faut savoir. Et que, je veux dire, le fait que certains journalistes au Gaza, où ils continuent à documenter ce qui se passe, c'est d'un courage inouï. Parce qu'en fait, ils sont avec leur famille est déplacée, ils ne savent pas comment les nourrir, comment s'en occuper. Et malgré tout, ils continuent à documenter. Ils continuent jour après jour. Et heureusement, le prix Bayeux, justement, qui a eu lieu il y a pas longtemps.
Il y a 15 jours, ouais, je crois.
Même pas, ouais. A honoré, justement, des journalistes Razaoui. Mmh. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce prix est attribué sur des reportages qui sont anonymisés. C'est-à-dire, on ne connaît pas le nom de celui qui a réalisé ou tout. Et en particulier, un journaliste extrêmement courageux qui s'appelle Rami Abou Jamous a été honoré au moins pour deux de ses reportages. Et je vous encourage à aller regarder le site d'Orient 21 où il y a ses critiques, ses reportages quotidiens.
Et heureusement qu'il en reste. Malgré tout, ils ont aussi, comme le reste de la population, les journalistes, péri largement au sein de ce conflit.
Mais, 170 reste... journalistes. Merci.
Je n'avais pas le chiffre, merci Elsa de le rappeler. On parle aussi évidemment de. Alors, on a parlé de Gaza. On a bien vu que le conflit depuis un mois, peut-être maintenant, vient de s'étendre largement aux pays frontaliers d'Israël. Oui. Est-ce que Israël a riposté ou a décidé d'attaquer, notamment l'Iran, par exemple, pour commencer par l'Iran?
L'Iran, là, je veux dire, on n'en est pas encore tout à fait là. Il n'y a pas de confrontation directe. Il y a eu une attaque effectivement ciblée contre Ismaïl Haniyeh, qui était à ce moment-là invité de la République islamique. Et là, il y a eu comme par hasard une frappe entre guillemets chirurgicale, où c'est juste l'appartement dans lequel il était logé qui a été soufflé, parce qu'évidemment, faire plus, ça risquait d'allumer l'étincelle. Ce qui montre bien que s'ils ont envie, les Israéliens, ils peuvent viser effectivement très précisément, alors que pour Hassan Nasrallah, qui était dans la banlieue sud de Beyrouth, là c'est une 85 tonnes, je dis bien, dans Beyrouth, la capitale d'un État souverain.
Tout à fait.
Qui a été lancé. Donc on voit bien quand même qu'il y a une volonté, au moins pour le Liban. Et c'est une vieille histoire entre le Liban et l'Israël.
Eh ben, allons-y alors.
C'est une très vieille histoire.
Pour plus tard, mais remettons le contexte sur.
C'est une très vieille histoire,
le
Liban
et l'Israël.
Parce que il faut savoir quand même qu'il y a eu déjà une attaque en 1978, et puis ensuite une occupation qui a duré une vingtaine d'années. Du Liban, parce qu'il s'agissait à l'époque de déloger la présence des Palestiniens qui étaient, et de l'OLP, et ça aboutit en 1982 à l'évacuation de l'OLP après un siège de Beyrouth dont certains les plus vieux se souviennent. Bon, il y a eu ça déjà, il y a eu et puis là, cette attaque contre le sud du Liban. Il y a eu la fameuse guerre des 33 jours, là, aussi, qui s'est conclue par une résolution de l'ONU qui disait que la bande au nord de la frontière sud du Liban, nord d'Israël, soit libre de tout combattant armé. Avec simplement, donc, la fameuse FINUL, c'est-à-dire la force d'interposition des Nations Unies pour le Liban.
Eh bien, on va y revenir, justement. J'avais prévu de le caler un peu plus tard dans notre entretien, Elsa, mais c'est la recommandation de la semaine, la toujours impeccable émission Le Dessous des Cartes d'Arte, qui revient sur la présence de la FINUL au sud du Liban. On écoute.
Bienvenue dans l'essentiel du Dessous des Cartes. On commence avec ces images de véhicules blindés de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, les fameux casques bleus de l'ONU, déployés le long de la frontière entre le Liban et Israël depuis 1978. Plus de 10 000 soldats, dont la mission est de faire du maintien de la paix. Sauf que cette frontière israélo-libanaise est de nouveau dans la guerre, depuis l'attaque terroriste du Hamas. depuis la contre-offensive que mène Israël à Gaza, depuis que le Hezbollah est lui aussi rentré dans cette guerre et que récemment, l'armée israélienne est entrée au Liban pour se confronter directement à la milice libanaise. Israël qui demande aux soldats de l'ONU de se retirer de la zone de danger afin de ne pas servir de bouclier humain aux terroristes du Hezbollah, dit Netanyahou. Mais l'ONU s'y refuse. Par principe, le drapeau des Nations Unies doit continuer de flotter haut dans cette région. Sauf que ces derniers jours, des casques bleus ont été blessés dans les opérations de Tsahal, dont deux soldats indonésiens. La preuve qu'Israël se croit au-dessus du droit international, a déclaré l'ambassadeur indonésien à l'ONU. Nakoura, au sud Liban, le quartier général de la FINUL depuis 1978. À l'époque, il s'agit de confirmer le retrait des troupes israéliennes du sud Liban et d'aider le gouvernement libanais à rétablir son autorité. Mais ce mandat va évoluer au fil des années, notamment après 2006. La FINUL doit faire appliquer la résolution 1701 de l'ONU, soit s'assurer qu'aucun personnel armé autre que celui du gouvernement libanais et de l'ONU ne soit dans le secteur suivant, entre la frontière israélienne et la rivière Litani, une résolution que le Hezbollah n'a jamais respectée.
Voilà donc pour ce dessous des cartes qui développe un peu recontextualise la présence de l'ONU et de la fameuse FINUL au sud du Liban.
Je voudrais réagir quelque chose à ça, c'est qu'en fait, pour certains suprémacistes israéliens, en particulier les ministres Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont au gouvernement actuel Netanyahou, ils ne reconnaissent pas le Liban comme un pays souverain. Et ils le disent carrément, que en fait, ils voudraient s'emparer au moins d'une bonne partie du sud du Liban. Et là, actuellement, ils demandent à des villageois du sud du Liban, mais au-delà même, au nord du Litani, donc au-delà de la résolution de l'ONU, d'évacuer leurs villages. Et ce sont des villages chrétiens, sunnites, où il n'y a pas un seul chiite, et il y en a justement un village chrétien qui s'appelle Aïtou, qui a été entièrement détruit, et y compris le maire avec ses conseillers municipaux, etc. Donc, je veux dire, là, de la part d'Israël, il y a vraiment une espèce de fuite en avant, mais une fuite en avant, mais criminelle absolument. Dans tous les cas, je ne comprends pas que les pays, l'assemblée des pays au niveau international ne se lève pas contre le fait que c'est un État qui s'attaque à un État souverain quand même. Le Liban est un État souverain.
Justement, Elsa, j'ai l'impression que, et on va pouvoir le critiquer malgré tout, mais que on entend Macron de plus en plus ferme depuis il reste des progrès, hein, on est d'accord tous les deux, je te vois lever les yeux et je suis globalement d'accord avec toi, mais depuis que ce conflit rentre par la porte des casques bleus, on entend un peu plus Macron s'opposer frontalement à l'initiative israélienne.
Oui, il y a aussi une vieille histoire entre le Liban et la France. Je veux dire, la France a été puissance mandataire au Liban, et d'ailleurs
tous les intérêts à se prononcer avec, un peu plus en faveur de
exactement, et avec quand même un héritage qui est pour le coup criminel, à mon avis, c'est le régime confessionnel qui a lieu au Liban actuellement et qui continue à le régir.
Rappelons-le, le Liban, je crois, est plutôt francophone avec une vraie culture des relations. Donc il y a une entente.
La partie maronite. Ok. La partie maronite, c'est-à-dire les chrétiens catholiques du Liban qui étaient traditionnellement dans les montagnes et qui ont été privilégiés comme toujours par la puissance colonisatrice pour diviser un pays qui était déjà divisé par des communautés religieuses extrêmement diverses, puisqu'il y en a 17 qui sont reconnues au Liban.
Effectivement. Quelle est la situation de la population au Liban? À quoi doit-elle s'attendre? Comment est-elle en train de réagir et de vivre à ces conflits qui sont en train de se développer?
Alors, il faut savoir que le Liban est dans une situation absolument dramatique. Mm-hmm. Il n'y a pratiquement pas d'État libanais, en particulier depuis l'explosion du port de Beyrouth qui a mis complètement à bas l'économie libanaise.
C'était il y a 3-4 ans.
C'était en 2021. Août 2021. Donc je veux dire, il y a déjà une inflation terrible, une dévaluation de la monnaie libanaise qui ne vaut pratiquement plus rien.
Donc une précarité largement...
80% de la population est en dessous du seuil de pauvreté. Là, c'est une catastrophe de plus et il y a une peur énorme de voir ressurgir une guerre civile comme celle qu'ils ont connue entre 75 et 1990. Je veux dire, c'est un pays qui est déjà extrêmement abîmé, je veux dire, et qui est malmené et où la population n'a pas de quoi vivre. Alors, ce qui est contre-intuitif et pourtant qui existe, c'est que, y compris certains Libanais qui étaient contre absolument le Hezbollah, parce que c'est un parti politique qui est reconnu, qui est présent dans le parlement libanais.
Dans le paysage politique, oui.
C'est pas. D'ailleurs, la France ne reconnaît pas le Hezbollah comme un groupe terroriste. Il ne le caractérise pas du tout comme un groupe terroriste. Eh bien, des parties de la population qui étaient contre le Hezbollah, maintenant se disent que c'est leur seule façon d'être défendue, parce que l'armée libanaise n'a aucune existence ou est extrêmement faible. Donc c'est contre-intuitif là ce qui se passe, mais pourtant c'est bien réel.
Israël est en train de créer un...
Absolument. Regrouper la population libanaise autour d'un groupe qui est pourtant un groupe extrémiste, il faut quand même le reconnaître, intégriste.
Justement, quelles sont les relations entre le Hezbollah, alors qu'il soit au Liban ou en Iran, on va aussi y revenir, et le Hamas?
Ils sont extrêmement différents. Le Hamas est sunnite, le Hezbollah est plutôt proche des frères musulmans. D'accord. Alors que le Hezbollah est chiite et soutenu par l'Iran. Ils se mettent d'accord en fait sur la libération de la Palestine, c'est ça en fait qui les...
C'est leur point commun, leur dénominateur commun.
Et de la même façon avec les Houthis par exemple au Yémen, avec lesquels il y a une grande différence avec le Hamas bien sûr, mais ce qui les rassemble, c'est la défense de la Palestine et du droit du peuple palestinien à avoir son État.
Le Hezbollah va donc, on l'imagine, se défendre, il a déjà commencé à le faire. Quel avenir pour ce conflit avec cette nouvelle donnée?
Eh bien, l'histoire prouve que, de toute façon, Israël ne gagnera pas. Voilà. À chaque fois que Israël a pénétré sur les terres libanaises, il a été à chaque fois obligé de repartir. Alors là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que toute la chaîne de commandement du Hezbollah a été, affaiblie par la fameuse attaque des beepers qui ont explosé et qui, entre parenthèses, n'ont pas touché que des militaires, mais y compris des civils dans des hôpitaux, des enfants, des civils dans les supermarchés, exactement. Mais n'empêche, la chaîne de commandement a été extrêmement affaiblie. Mais pourtant, on voit bien qu'ils réagissent et qu'il y a des attaques qui partent, bien sûr. Ils ont un arsenal de roquettes extrêmement important. Enfin, c'est ce qui se dit.
On va faire une pause puisqu'on parlait du Liban. On va écouter le chanteur Mashrou Leila.
Mashrou Leila.
Tu prononces bien mieux que moi, Elsa, avec le musicien renommé mondialement, Eric Truffaz. On fait une petite pause, on se revient juste après. À tout de suite.
تسكر تسكرني لوك يا اخي تنساني يا حبيبي يا حبيبي يا fac à aller.
Te laisser le reprononcer, Laïla, puisque Elsa, pardon, parce que tu le fais bien.
Il s'agissait de ma chouar Laïla Chemmen Yasmin.
Voilà, c'était le titre de la chanson. Avec Eric Truffaz, donc. On reparle donc de la situation au Moyen-Orient, et notamment avec ce chanteur libanais. Tu me disais juste avant de reprendre l'antenne que la situation sanitaire aussi se dégrade. Alors ce n'est pas que à cause de la guerre, encore une fois,
non.
Tu as rappelé le contexte économique et social du Liban, même avant cette nouvelle donne, mais la situation se détériore.
Oui, apparemment, des cas de choléra auraient été détectés au Liban. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de système de santé, il n'y a pas de protection sociale, donc ça rend les choses dramatiques, et on imagine que l'attaque d'Israël va encore faire empirer les choses.
Je te propose qu'on change de pays, qu'on saute pas très loin avec l'Iran. Alors là, c'est encore plus complexe. L'Iran est une puissance nucléaire. aussi, ça rajoute de la tension. Quelles sont les relations qu'ont entretenues l'Iran et Israël au cours de l'histoire?
Ah, ça se passait très bien du temps du Shah d'Iran. Mmh. Il y a une grande collaboration entre Israël et l'Iran de l'époque. Il y avait des échanges, ils étaient sous le parapluie états-unien l'un et l'autre, donc il n'y avait aucun problème. Et c'est avec l'avènement de la République islamique en 1979 que les choses se sont gâtées d'une certaine façon. Et il faut savoir que depuis même avant qu'ils accèdent au pouvoir, Netanyahou, c'était l'obsession de Netanyahou, désigner l'Iran comme l'axe du mal, comme étant le mal absolument à combattre absolument. Et je pense que dans cette fuite à l'avant qu'a Netanyahou en ce moment, il y a vraiment ça en ligne de mire. Il a l'Iran, ça c'est évident. Mais il est retenu aussi par les Américains qui ne veulent pas du tout se trouver embringués dans une autre aventure sans lendemain comme celle qu'ils ont connue en Irak ou en Afghanistan. Donc il y a une petite hésitation.
Les USA ont effectivement toujours pris plutôt parti pour Israël jusqu'ici, mais on voit que l'Iran est en train de changer la donne.
Non, enfin, plutôt parti, ils ont pris complètement parti du combat.
Avec quelques
Israël.
Alertes timides sur la situation à Gaza.
C'était juste des déclarations orales. Mmh. Mais il faut savoir que si les États-Unis arrêtaient de livrer des armes à Israël, la guerre s'arrêterait en deux jours. Mmh. Je veux dire, ça, il faut le savoir. Sans l'apport des livraisons d'armes occidentales, Israël n'a pas les moyens de mener la guerre qu'il mène actuellement. Israël est dans une situation économique absolument dramatique. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont fermés, qui ont mis la clé sous la porte. Donc non, il faut bien se rendre compte que là, Israël est entièrement dépendant des États-Unis. Alors, Netanyahou joue un petit peu le jeu du fait que Biden est en fin de mandat, que les élections américaines arrivent début novembre, donc il est dans une fenêtre de tir où il peut d'une certaine façon s'autonomiser, d'une certaine façon du parapluie américain. Mais enfin, c'est un petit peu compliqué, et d'autant que ceux qu'ils visent, évidemment, ce sont les installations nucléaires iraniennes, mais elles ne sont pas rassemblées en un seul endroit, elles sont disséminées sur au moins 7 à 8 sites, si je me souviens bien. Donc ça rend les choses un petit peu compliquées.
L'Iran est un assez grand pays, hein, rappelons-le aussi.
Très grand, oui, très grand. Et donc peut-être les installations pétrolières, mais dans ce cas-là, ça poserait problème aussi au niveau du cours du pétrole. Mm-hmm. Donc il y a beaucoup de contradictions et ça ne rend pas la tâche de Netanyahou très facile.
Par qui l'Iran est-il dirigé aujourd'hui et quel rapport de force ça crée avec Israël?
Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des élections. Il y en a eu il n'y a pas longtemps. Donc, je suis désolé, mais j'ai oublié le nom du président iranien qui se termine par Yan. C'est la seule chose dont je me souviens.
Mais c'est vrai que le président est décédé dans un accident.
Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Mais en fait, qui dirige réellement, c'est Ali Khamenei. C'est évident, je veux dire, c'est une apparence simplement de gouvernance, mais en fait tout est décidé par le guide suprême. Donc les choses n'ont pas changé d'un iota depuis l'avènement de Khamenei à la place de guide suprême.
Et donc Khamenei est une cible pour Israël.
Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Je ne sais pas. Est-ce que ce serait intelligent de leur part? J'ai du mal à me mettre à la place d'un Israélien.
Ok. Très bien. Reparlons d'ici, justement. Vous avez alerté sur la situation à Gaza le week-end dernier lors des rendez-vous de l'histoire par la rédaction de Tract puisque le thème des rendez-vous de l'histoire le week-end dernier était la ville. Donc on en a parlé rapidement en début d'émission. Les villes de Gaza notamment sont anéanties et donc vous aviez décidé de sensibiliser là-dessus.
Oui, nous avons rédigé un tract avec l'Interorga Palestine 41 qui s'appelle Gaza, un herbicide délibéré. Et nous avions envisagé aussi un rassemblement, une manifestation devant la préfecture. Or, il y a eu un arrêté d'interdiction préfectorale dont on a eu connaissance que le vendredi, je crois, ou je sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi, en tous les cas, une interdiction très tard. Et grâce au syndicat CGT 41, l'union départementale CGT 41 et la FSU 41, il y a eu une procédure pour un référé liberté pour casser cet arrêté d'interdiction. Et de fait, l'arrêté a été suspendu le vendredi après-midi, ce qui fait que le samedi, on a pu tracter sans problème, sans complexe devant la préfecture. Et je dois dire que c'est un tract qui a été extrêmement bien accueilli par le public des Rendez-vous de l'Histoire. C'est la première fois, en tous les cas, de ma longue carrière de militante, où on m'a dit autant de fois que le tract était intéressant, était bien fait.
Superbe.
Donc, nous étions assez contents de nous.
Parfait. Quels sont on n'a pas parlé. Pardon. Je me le suis noté juste en bas de ma feuille. On n'a pas parlé d'autres pays qui sont touchés par le conflit, que sont la Syrie et la Jordanie. Tu veux en dire un mot?
Bah, écoutez, la Syrie, oui. Puisque même la banlieue de Damas a été touchée. Et puis, il ne faut pas oublier le Yémen aussi, qui a été touché, puisque le Yémen, les Houthis du Yémen visent les bateaux qui prennent le détroit de Bab el-Mandeb pour livrer des marchandises ou du pétrole en Israël. Donc, ils s'attaquent aux navires occidentaux qui ont un rapport plus ou moins lointain avec Israël. Et donc, évidemment, ça a baissé le trafic de marchandises par cette voie maritime de à peu près 60%, quelque chose comme ça. Donc ça a des conséquences sur l'Égypte qui étire ses revenus du canal de Suez. Ça a des répercussions partout. Je rappelle que c'est quand même 15 à 20% du commerce mondial qui passe par cette voie maritime. Donc c'est extrêmement important. Mmh. Extrêmement important. Mais les outils dont on dit qu'ils sont sous l'influence de l'Iran sont effectivement, ils sont aidés bien sûr matériellement par l'Iran, mais ils ont une certaine autonomie et je pense qu'ils n'en font qu'à leur tête d'une certaine façon.
Et la Jordanie ?
Et la Jordanie, elle, a été visée, mais je pense que c'était peut-être une erreur, parce qu'en fait, ils ont participé. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu cette attaque de missiles extrêmement importante de l'Iran contre Israël, la Jordanie a, comment dire, dévié ou attaqué certains de ces missiles. Donc, est venue en protection de l'État d'Israël, d'une certaine façon. Et donc, je pense que c'est plutôt, comment dire, une bavure, ce qui s'est passé en Jordanie, plutôt qu'une intention délibérée.
À suivre donc dans les jours et les semaines qui suivent. Quelles sont les actions prévues par l'AFPS 41 dans les semaines à venir
Alors donc,
pour continuer à alerter, sensibiliser.
Alors nous avons envisagé une projection le 26 octobre à 16h à la Bourse du Travail. Ce sera le documentaire qui a été fait par un journaliste de Blast qui s'appelle Yanis Mhamdi. Et c'est Netanyahou, portrait d'un criminel de guerre. Et nous aurons la chance d'avoir deux intervenantes, deux journalistes de Blast qui seront là pour animer le débat.
Superbe.
Ensuite, nous aurons une action de boycott contre la BNP, la banque qui finance effectivement Israël, dans le cadre de l'action boycott des investissements sanctions. Voilà. Et je pense aussi qu'il y aura, je suis même sûre qu'il y aura un film dans le cadre de Cinéphile en début du mois de décembre.
Projeté donc en décembre.
Sans compter sans doute les autres mobilisations, parce que nous n'arrêtons pas depuis un an, nous mobilisons pratiquement une fois par semaine.
Place leur joue à Blois, souvent ?
Alors très souvent,
place leur joue.
Oui, le dimanche, mais ça peut être d'autres jours si l'actualité le demande.
À Romorantin également, vous...
Alors, Romorantin, ce sera le premier mardi de chaque mois, je pense. Okay. Voilà.
Très bien. Je te propose, Elsa, que l'on termine cette émission par les mots d'une autrice qui m'ont beaucoup frappé. C'était mercredi dernier. Mona Chollet, tu l'as deviné. C'était dans la grande librairie. Je ne sais pas si ces mots font du bien à tout le monde, mais elle, tu les as entendus?
Ah oui.
Ouais. Et ben, on va se les repasser alors, parce qu'il me semble important. Elle n'est pas spécialiste en géopolitique. C'est une autrice qui a écrit un texte avec son cœur. Et alors, on pourrait reprocher qu'on esthétise un petit peu l'horreur, mais ces mots aussi font du bien à entendre, je trouve. On se quitte, on revient juste après, mais on écoute donc Mona Chollet qui s'est exprimée dans un texte libre dans la grande librairie, l'émission de France 5 la semaine dernière.
Peut-on aimer un pays qui n'est même pas un pays? Un pays dont on n'a jamais foulé le sol. Un pays avec lequel on n'a, pour tout lien physique, qu'une lampée d'huile d'olive, parsemée de zaatar, qui caresse le gosier, qui enchante les papilles de sa verdeur. Un pays dont on regarde de vieilles photographies, le cœur battant, en y cherchant le visage de ses ancêtres, au détour d'une ruelle de Jérusalem. Peut-on aimer un pays que tant de gens autour de soi se réjouissent de voir brûler? Un pays défiguré, englouti par la corrosion d'un seul mot, terroriste. Un pays d'enfants radieux, transformés en pantins mutilés, en cadavres poussiéreux. Un pays dont le nom à lui seul constitue une offense, dont le drapeau peut vous mener au commissariat, dont les habitants pèsent moins qu'une plume sur la balance des vies humaines. Peut-on aimer un pays dont même vos amis semblent ignorer la part de douceur? Un pays qui vous rend suspecte, qui vous isole dans le tremblement de votre effroi, dans le chagrin qui vous réveille la nuit, dans l'infinie litanie de souffrance trop vertigineuse pour que l'esprit les saisisse. Peut-on aimer un pays entêté, qu'il serait si facile de renier, mais qui vous interdit de l'oublier? Un pays qui vous appelle, qui vous oblige. Un pays qui vous demande de mettre à l'abri ses trésors quand vient l'heure inexorable de la destruction.
C'était donc les mots de l'autrice Mona Chollet. Elsa, ça te...
Ah, c'est... Ça touche beaucoup.
Elle a mis des mots parfois crus, mais d'une belle manière, effectivement, je trouve, et je trouvais que c'était important de repartager cette petite diatribe contre ce qui se passe en Palestine. On avait commencé avec Gaza, on termine donc avec Gaza. Merci beaucoup, Elsa, d'avoir accepté de revenir dans cette émission. On se quitte comme chaque semaine. L'émission est à retrouver en podcast dès demain sur le site de Studio Zef. On se quitte comme chaque semaine donc avec le journal de bord d'un élu local. À 18h, c'est l'ami Christophe avec la Roxette. Les programmes continuent sur Studio Zef. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci, Elsa.
Journal de bord d'un élu local, c'est l'épisode 127, avec notre invitée Cathy Savouret. C'est parti! Bonjour Nicolas!
Salut Gaël!
Nicolas, on est toujours aux journées d'été écolo.
On est toujours sous notre arbre.
Ouais, c'est vrai qu'on est bien installé. Alors apparemment, il y aura du vent cet après-midi.
C'est un chêne rouge d'Amérique.
Tu te la pètes. Et du coup, on va avoir plein d'invités cet après-midi encore. Et on est très fiers d'accueillir Cathy Savouret, comme le verbe. Bonjour Cathy.
Bonjour.
Cathy, tu es adjointe au grand projet urbain, à l'urbanisme, au foncier et à l'espace public pour la mairie de Tours.
Oui, mairie de Tours.
D'accord.
Mairie écolo.
Oui, mairie écolo, et exactement.
Et de gauche.
Et donc, on est ici à Tours d'ailleurs. Hmm, on n'en a pas dit, hein, Nico.
Ah bah oui, on est
les journées d'été sont accueillies à Tours cette année, c'est trop classe.
Dans notre région, c'est chouette.
Ouais, puis bienvenue sur l'île Balzac.
Ouais, moi c'est la première fois que je venais.
C'est une grande réussite, hein. Tout le monde ne cesse de le dire. Bravo pour l'organisation.
Ouais, c'est super joli. Donc, alors on parle de quoi ?
Eh bien, on va parler d'urbanisme, évidemment, puisqu'on est avec l'adjointe à l'urbanisme. L'équivalent à Blois, ça serait Jérôme Bougeot dans cette délégation, qu'on n'a pas encore invité. Ça pourrait être intéressant après de l'inviter et d'échanger avec lui sur ça. Mais
Jérôme, on prend rendez-vous.
Voilà, on prend date. et en tout cas, ça n'empêche que dans mon mandat, dans notre mandat, on est confronté à ce genre de questions. Notamment, une des questions qui s'est posée pour nous, c'est la question de la place de l'arbre en ville. Comment on protège les arbres? On a mis en place un barème de l'arbre qui prend en compte les aménités des arbres.
Les quoi?
Les aménités apportées par un arbre, c'est-à-dire pas considérer que la valeur de l'arbre quand tu l'achètes en pépinière, mais la valeur qu'il apporte à ta ville en termes d'ombre, de sociabilité, d'amélioration de la qualité de l'air. Okay. Ça donne une valeur à ton arbre, son âge, son état phytosanitaire, qui sera considéré, ce qui évite normalement un peu à ce que les gens le coupent. Enfin bref, mais pour autant on n'y arrive pas très bien. Et on a eu plusieurs événements dans notre ville. On a eu des arbres très beaux, très vieux, qui ont été coupés, ou par la société d'économie mixte, ou par des privés. Quand t'arrives, c'est trop tard. Et toi, je crois que dans ta ville, t'as essayé d'agir sur ça, sur la qualité. Alors je parle des arbres, c'est un axe, mais sur la qualité de tes projets, comment tu fais en sorte, par exemple avec les promoteurs, de réussir à maintenir la qualité écologique, sociale du projet que tu imagines jusqu'au bout?
Alors déjà, c'est un travail que l'on fait en collaboration avec d'autres adjoints, notamment Betsa Beas, l'adjointe à la biodiversité et au patrimoine végétal. On est dans une ville où on n'oppose pas nature en ville et urbanisme. Moi, je dis toujours aux promoteurs, c'est pas parce qu'il y a des vides qu'il faut à tout prix mettre des plans. Et d'autre part, arrêtons de considérer l'arbre comme du mobilier urbain. Un arbre n'est pas un mobilier urbain, c'est pas un lampadaire, c'est pas quelque chose que l'on déplace comme certains promoteurs nous le proposent. On va déplacer l'arbre. Ben non, un arbre, ça ne se déplace pas. Et on a élaboré un plan nature en ville. On a fait comme vous, c'est-à-dire qu'on a défini un barème d'aménité. Et on a décidé de travailler en amont avec les promoteurs. Alors, au-delà des arbres protégés dans notre plan local d'urbanisme, c'est plutôt de dire à chaque fois 80% de l'urbanisme, en fait, à Tours est fait par la promotion immobilière, par le privé. C'est historique. Il n'y a pas eu de politique foncière menée depuis de nombreuses années à Tours. Donc en fait, les promoteurs, ils font comme dans toutes les villes, ils passent une promesse de vente avec un propriétaire privé, et puis, vu les prix du foncier, ils essayent de rentabiliser au maximum, et donc d'utiliser les règles du plan local d'urbanisme au maximum, pour faire le maximum de mètres carrés constructibles. Donc nous, on a décidé d'une méthode qui avait déjà démarré avant nous, mais qu'on a beaucoup amplifiée, qui s'appelle la question des ateliers d'avant-projet. C'est-à-dire qu'avant tout dépôt de permis de construire, un promoteur et son architecte vient nous voir et on reprend le projet à la base. La première chose, c'est qu'on identifie le lieu où il veut aller, sur lequel il s'intéresse. On va sur le site avec notre architecte conseil. Et si c'est un site qui est déjà pas mal végétalisé, on amène quelqu'un de la direction du patrimoine végétal. On va sur site et on voit les éléments qui sont nécessaires de protéger. Ça peut être un muret de clôture, ça peut être une haie végétale, ça peut être des grands sujets. Et selon l'importance du site, on peut être amené à dire, ben non, ok, vous pourriez le faire, mais non, ne vous intéressez pas à cette parcelle parce qu'on n'a pas du tout envie de l'urbaniser. Et quand on décide de l'urbaniser, on va décider des arbres par exemple, s'il y a des arbres sur une parcelle, les arbres qu'il va falloir conserver. C'est-à-dire, c'est pas les arbres qui s'adaptent à l'architecture, c'est l'architecture et l'implantation des bâtiments. C'est pas le seul critère, mais c'en est un. L'arbre devient un invariant. Et comme je leur dis, vous démolissez pas la maison d'à côté, donc vous n'avez pas besoin de démolir l'arbre. C'est la même chose.
Ouais, ouais.
Donc voilà, donc ça, ces invariants-là, ils sont définis vraiment dès la première réunion avec le promoteur. À partir de là, on aura une réunion où on définit le programme. Qu'est-ce qu'on fait sur cette parcelle? Est-ce que c'est que du logement? Est-ce qu'on met des commerces? Quelles sont les vues que l'on veut conserver? Donc vraiment, on va définir est-ce que si c'est du logement, est-ce qu'on met une part de logement social ou d'accession sociale? Est-ce que c'est plutôt des logements, quelle taille, etc. Troisième réunion, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le programme, alors ça peut être la troisième, la quatrième, ils vont travailler sur la question des formes urbaines. Et pour ça, je leur demande des maquettes. Et la maquette, c'est pas que la maquette de la parcelle. C'est la maquette de la parcelle dans son environnement. Puisqu'à Tours, c'est comme à Blois, on construit pas dans des champs de betteraves, on construit dans une ville déjà constituée. Et bien sûr, les arbres doivent être sur la maquette. Et ce qui nous intéresse, c'est pas que l'arbre, c'est la projection du houppier, c'est-à-dire l'ensemble de l'arbre, la projection sur le sol, plus 3 mètres. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système racinaire est équivalent à tout le végétal que vous voyez en l'air. C'est-à-dire là, au-dessus de notre arbre, là, ben, les racines, elles vont jusqu'au bout des pointes...
Des branches.
C'est pas que le tronc. Et en plus, on rajoute 3 mètres parce que votre arbre, il va continuer à grandir. Et c'est la distance de protection, en fait. Donc là, on se met d'accord sur la forme urbaine, c'est-à-dire la hauteur des constructions, le volume, l'épaisseur des bâtiments, est-ce que les logements sont traversants, enfin ça c'est une obligation, etc., etc. Et après, au dernier atelier seulement, on va parler d'architecture. Et on parle aussi d'usage dans les formes urbaines, c'est-à-dire que quand on parle du logement, quelle est la taille de l'extérieur, est-ce qu'on essaye d'avoir des projets avec la fameuse pièce en plus, comment vont être configurés les logements, parce qu'il y a des fois vous regardez les plans et vous dites mais c'est pas possible là, votre séjour, on peut pas mettre une table, un canapé, une télé, parce que les gens quand même continuent à avoir des télés, même si moi je la regarde pas, comment ils font là? Et l'architecte vous dit, mais si, mais non, regardez, mais non, ça passe pas. Donc, retravaillez, monsieur. Voilà, donc l'idée, c'est ça. Et après, dans le cas du chantier, et ça, on l'a imposé parce qu'on a eu, nous aussi, des dégâts, c'est-à-dire des promoteurs qui nous disaient, oui,
qui ont fait, ouais.
On protège, c'est bien au permis. Et puis, malheureusement, le jour du chantier, ah ouais, mais là, on va devoir couper.
C'est ce qui s'est passé rue de l'usine à gaz. C'est-à-dire que les arbres étaient censés être protégés, ils étaient censés être préservés dans le projet. Et en fait, l'usine de dépollution du site a enlevé les arbres. Et c'était fait, quoi.
Voilà. Et donc là, on demande maintenant, avant le démarrage du chantier, on demande la protection des arbres et on va sur site vérifier que la protection est bien faite. Et comme les habitants maintenant savent qu'on est attentif à ça,
Souvent
ils nous appellent.
Ah, c'est cool ça.
Voilà, en disant là il y a un problème.
Hey Cathy, je sais pas si t'as vu la tête de Nico quand il t'écoute là, mais il a les yeux dans le vague. Il est en train de voir toutes les bonnes idées là. Je pense que ça te plaît beaucoup.
Bah oui, bah, nous on. Alors je sais pas si le champ. De... En tout cas sur l'espace public. C'est plutôt nos services en interne qui font dessinent beaucoup de choses et on a des services qui sont très compétents. En général, là où ils sont plutôt en pointe, c'est sur la GIEP, la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est-à-dire
la gestion quoi ?
Gestion intégrée des eaux pluviales, c'est-à-dire à un moment donné sur chaque parcelle, quand tu construis un bâtiment, tu vas faire en sorte que l'eau de pluie qui tombe sur ta toiture et qui va descendre en bas de ta gouttière, au lieu de la renvoyer au réseau, ce qui crée après des surcharges de réseau et puis qui pollue une eau qui ne l'était pas, tu vas faire en sorte qu'elle s'infiltre sur la parcelle. Donc là aussi, ça t'oblige à gagner de l'espace parce qu'il va falloir créer des endroits où l'eau va pouvoir s'étaler et s'infiltrer. Nos services sont assez sensibles à ça et on sensibilise les architectes, les urbanistes beaucoup à cette question-là. Toutes nos places de parking vont être souvent pavées, enherbées. Exactement ce que disait Cathy, c'est-à-dire ne pas vouloir remplir tous les vides et se dire et souvent tu peux te dire aussi, utiliser que ce dont on a besoin et le reste on va se dire ben, pourquoi pas le végétaliser, le rendre à de la nature en creux.
Alors ça c'est quelque chose que l'on fait également, c'est-à-dire que quand moi je suis arrivée, le plan local urbaniste prévoyait 15% de pleine terre sur une parcelle.
Dire que de quoi ?
De pleine terre. C'est-à-dire il fallait que 15% de ta parcelle soit reste en pleine terre.
La pleine terre, c'est le sol. Si ta terre elle est dans un bac, si par exemple tu plantes un arbre mais qu'il est dans un pot, c'est une terre qui est en l'air. Et qui du coup il va falloir que tu l'arroses toute l'année, sinon ça va sécher et ton arbre va mourir. Alors que quand t'es dans la terre du sol, là t'as de la biodiversité, des vers de terre et ton arbre il survit même sans que tu l'arroses en continu.
Donc le problème c'est que t'as des parkings en sous-sol qui sont plus larges que ton bâtiment et donc certes t'as de la terre mais que sur 60-50 cm c'est pas la pleine terre. Donc quand on parle de pleine terre, c'est tu peux aller jusqu'à la croûte terrestre quoi. Enfin, tu vois, il y a rien qui...
Au-dessus d'un parking souterrain, c'est comme un grand bac de jardin géant.
Voilà. Donc quand on est arrivé à la responsabilité, on a imposé 30% de pleine terre, mais légalement c'était pas écrit.
Oui, d'accord.
Mais ça a été une règle imposée en attendant qu'on puisse modifier le plan local d'urbanisme. Et ça prend toujours du temps, c'est toujours 18 mois. Mmh. Voilà. Donc ils l'ont appliqué, on l'a fait appliquer dès le départ en disant c'est comme ça, c'est un invariant. 30%, c'est pas légal. Mais il va falloir le faire en attendant que ça soit légal. Et nous, quand on considère le 30% de pleine terre, c'est-à-dire on ne compte pas les parkings en dalles. On ne considère pas ça comme de la pleine terre. C'est perméable, mais ce n'est pas de la pleine terre. Les cheminements, même s'ils sont en phalan, c'est perméable, mais ce n'est pas la pleine terre. Quand on dit 30% de pleine terre, c'est vraiment de la pleine terre. La terre végétale où on peut planter. Et la métropole, ça c'est le règlement métropolitain, impose, nous on le demandait, mais là l'impose maintenant à tous les projets, l'infiltration à la parcelle. Ce qui nécessite pour les grands projets... où on demande à ce que les promoteurs et les architectes s'entourent d'un vrai cabinet de paysagistes, parce qu'un architecte, il ne sait pas faire, pour avoir un vrai projet paysager sur la parcelle, visé par nos propres services. Parce que là, c'est pareil, on a la chance, comme à vous, à Blois, d'avoir des services aussi bien à l'urbanisme qu'à la direction du patrimoine végétal et de la biodiversité très, très compétents. Donc, tous nos projets... Et moi, quand je vous parle des réunions d'avant-projet, il y a les réunions auxquelles j'assiste, mais à côté, il y a de multiples réunions techniques où justement ces calages se font. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on se pose la question aujourd'hui, puisqu'on élabore le plan local d'urbanisme métropolitain, on est en train de se dire que nos 30%, ben, dans certains quartiers, c'est peut-être pas suffisant, il va falloir monter à 40%. Par contre, dans certains quartiers, notamment le centre-ville très dense, où les parcelles sont quasiment urbanisées à 100%, ben 30 c'est trop. Il va peut-être falloir descendre à 20 parce que si le tissu le permet pas. Donc là, on est en train, dans le cadre de la réflexion plan local d'urbanisme métropolitain, mais parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis en responsabilité, donc maintenant je suis capable, avec les services, de voir là où il faut aller plus loin, là où il faut aller moins loin, etc.
Alors nous, on a ça aussi, des obligations de pourcentage en pleine terre dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Après, pour autant, ça suffit pas. C'est-à-dire que sur l'espace public, tu as vraiment la main. Tu fais ce que tu veux, c'est tes services qui dessinent, qui réalisent. Et encore, là aussi, on a des points d'amélioration. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à donner un projet à un architecte paysagiste qui va le dessiner. Il va faire l'esquisse, les grands schémas directeurs. Et puis après, on reprend en interne pour finir la conception et réaliser. Et l'autre sujet, c'est à chaque fois qu'on est sur une parcelle privée, c'est là que c'est le plus dur d'agir. Et ce qu'on aimerait mettre en place et dont on discute avec les services, c'est une charte d'aménagement durable. C'est une charte, c'est en gros un cahier des charges de base. Qu'est-ce qu'on va demander à chaque projet pour qu'il nous semble vertueux? Et peut-être que tu pourrais nous en reparler dans un autre épisode, parce que vous avez bien, ben toi, tu as bien travaillé là-dessus, ça touche à ses fruits. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de commencer à porter et à lancer avec Jérôme Bougeau et Hélène Menou et le reste des adjoints. Donc, si tu es d'accord, on en reparle dans l'épisode suivant.
On fait ça ? Merci.
Oui, pas de souci.
Ok, alors à la prochaine. Merci beaucoup. Tu t'appelles Nico.
Et tu t'appelles Gaël.
Tu es l'élu bavard.
Et toi, t'es le compère réalisateur.
Ouais, exactement. On est mi-mandat, Nicolas.
Déjà, 100 épisodes, c'est dingue.
Ouais, et si jamais vous vous posez des questions sur...